Les podcasts de la 45e édition de Cinéma du Réel.
Rencontre avec France Souprenant, animée par Sad Chakali.
Eh bien, écoutez, on va commencer cette conversation à bâton rompu. Donc, on va rompre quelques bâtons et d'ailleurs. Il y a des micros qui circuleront, donc du coup, si vous voulez aussi les casser, vous n'hésiterez pas. Quand on revoit le film, je repense à René Scherrer dans « Le jeu de loi » du professeur Polybus, ce film que tu lui as consacré en 2007. Il évoque une phrase de Walter Benjamin, qui dit « Il n'y a pas d'œuvre de civilisation qui ne soit pas aussi une œuvre de barbarie. » Et on y pense beaucoup devant ce film. Je pense aussi à une chose que tu nous avais dite, c'est que quand tu étais enfant, tu voulais devenir archéologue.
Ah oui. Ben, je l'ai pas fait.
Alors, tu l'as pas fait, j'en suis pas tout à fait sûr, parce que le film qu'on a vu, c'est de l'archéologie.
Enfin, j'ai pas fait l'archéologie que je voulais faire.
Ah, t'en as fait une autre.
Et non, je suis resté dans des temps plus récents. Moi, je voulais faire de l'archéologie de Sumer.
Alors, effectivement, on est. Mais 200 ans, c'est loin quand même. Hein. Et c'est très proche, et en même temps, ça peut apparaître comme très très éloigné aussi. Du coup, on peut peut-être commencer par ça, c'est-à-dire regarder le film à partir de deux archives. Il y a une archive textuelle dont tu as commencé à parler tout à l'heure, et puis il y a aussi les images. On peut peut-être déjà commencer par les textes, parce qu'ils ont des origines très très diverses. Il y a des textes de militaires, il y a aussi des civils, et parmi ces civils qui défendent le projet de la conquête de l'Algérie, il y a des noms tout à fait respectables, respectés, comme Victor Hugo, Alexis de Tocqueville, Ernest Renan. Comment tu as constitué justement cette archive et ce montage de tous ces textes, sachant aussi que ça discute, hein, ils ne sont pas tous d'accord sur ce qu'ils font, et puis il y a aussi des voix qui sont dissonantes, dissidentes, critiques, comme celle de Victor Considérant, évidemment Charles Fourier et aussi Prosper Olivier Lissagaray. Tu peux nous raconter déjà cette première constitution de ces textes?
D'abord, j'ai lu en masse. J'ai tapé la machine en quantité. Et ensuite, il a fallu mettre de l'ordre dans tout ça. Et du fait, j'ai constaté que tous ces colonisateurs, enfin ces débutants colonisateurs, n'avaient pas tous le même point de vue. C'est-à-dire qu'il y a la majorité sont des assassins, mais il y a une bonne part d'humanistes aussi. Tous sont colonisateurs, tous veulent conquérir l'Algérie. Mais pas tous de la même façon. Il y en a, c'est par le meurtre, ce qu'on pourrait appeler génocide, sauf qu'ils n'ont jamais voulu faire de génocide, parce qu'il fallait toujours garder des bras pour travailler la terre et le reste, pour faire domestique, pour faire ouvrier agricole, pour faire tout ça. Donc ils n'ont jamais, même si c'est évoqué par moments, des déportations en masse et définitives, ils n'ont jamais voulu tuer tout le monde, parce qu'il fallait bien faire suer le burnous, quoi. Donc ces textes que j'ai trouvés s'entendent sur un consensus qui est le bien de la colonisation, mais ils ne s'entendent pas sur les modes de colonisation. Donc j'ai cherché des textes, puis après j'ai essayé de trouver des... un ordre, de les mettre en ordre, enfin d'abord épurer parce qu'on avait des tonnes, et ensuite mettre un ordre en respectant la chronologie grossière, c'est-à-dire que évidente. Après, bon, c'est sur des petits trucs comme mettre un mois d'avril après un mois de septembre. Ça, je l'ai fait. Ça, c'était assez compliqué. C'était même un des trucs les plus compliqués à faire. Mettre un ordre. Et ensuite, cet ordre, évidemment, il a été bouleversé quand j'ai avancé les images et ces citations de front. Il a été légèrement bouleversé, mais pas complètement, parce qu'ils ont assez bien avancé main dans la main, sans trop me faire souffrir. C'est ça que tu voulais que je dise ?
Je veux rien du tout.
Non, c'est de ça que tu
Mais oui, en tout cas, oui, sur des textes. Et puis aussi, tu as eu des lectures quand même importantes. Il y a eu François Maspero, il y a eu Charles-André Julien aussi, qui sont peut-être des passeurs, qui ont permis de rentrer dans cette littérature.
Pour trouver ces textes, oui, je suis passé par les bibliographies essentiellement du livre de Charles-André Julien, qui traite de cette conquête par la France, mais qui va plus loin, lui, il va jusqu'en 71, jusqu'à la grande révolte kabyle, plus loin dans le temps. Et je me suis appuyé sur la bibliographie de ce livre, et j'ai piqué aussi pas mal dans Maspero, qui a écrit. Et du coup, j'ai pas dû aller à la source, parce que le meilleur était déjà. Sélectionné dans Maspero, qui a écrit un livre à partir des correspondances d'Achille Leroy de Saint-Arnaud, qui est un des plus abjects des personnages de cette conquête, qui a commencé petit grouillot de merde, petit grouillot de Bugeaud, et qui a terminé maréchal de France, et qui est mort pendant la guerre de Crimée, mais pas d'une balle. D'une maladie du ventre qu'il avait récurremment. Et il n'est pas mort glorieusement, quoi. Mais enfin, c'est lui qui dit « Mes enfants, j'ai une position et mes enfants ont un nom, une position et je finirai, je ne sais pas, général d'armée dans 6 ans, qui est la paix ou la guerre. » Bon, c'est un mec particulièrement repoussant. Donc, effectivement, Maspero a écrit ce livre qui était extrêmement intéressant et dans lequel j'ai là piqué directement des citations de Saint-Arnaud sans aller me taper ses mémoires, ce qu'avait fait gentiment Maspero.
Il y a des dans les propos que tu as retenus, il y a des choses. Qui provoque en nous des rires très contrariés. Je pense à ce passage où quelqu'un dit on est venu leur apporter les lumières, mais le prix de la chandelle est vachement élevé quand même.
Ça, c'est de Grenadier. J'ai trouvé ça, je ne sais plus où. C'est un récit qui est fait par je ne sais plus qui. C'est de Grenadier, c'est une discussion entre deux Grenadiers. On leur fait payer la chandelle un peu cher.
Alors ça, c'est bon, ça c'est l'archive des textes. Et donc il y a aussi celle des images, et ça c'est ton archive à toi.
C'est des archives extrêmement récentes parce que. Enfin, ça dépend.
Il y a des nappes, alors tu peux peut-être nous distinguer.
Il y a plusieurs époques dans les images. C'est-à-dire que tout ce que j'ai tourné en Algérie, c'est des trucs qui ont été tournés pour l'essentiel. Tout ce qui est tourné à Alger, c'est des trucs qui ont été tournés en 2009-2010, parce que j'ai tourné pendant plus d'un an et demi. Et ça a donné la matière de 3 films. Et ensuite, j'y suis retourné en 2017, et tout ce qui est la Fantasia, le repas collectif, la foire, etc., c'était un pèlerinage. Et
c'était où ?
C'était dans le nord-ouest du Sahara, à Nsefra, à côté d'Nsefra. Dans le nord-ouest du Sahara, je ne sais pas, mettons 500 km d'Alger, au sud-ouest, à peu près, même moins que ça peut-être. Et c'est les premières les abords du Sahara. Et par ailleurs, il y a d'autres images qui sont plus anciennes. Celles-ci, c'est des trucs que j'ai fait à Paris, donc le pays j'ai fait à Paris dans le pays des conquérants, dans la capitale du pays des conquérants, des images que j'avais tournées en Super 8 dans les années 80-90. Et donc fallait bien montrer le pays des envahisseurs, et donc j'ai puisé dans mes, on peut appeler ça des archives maintenant puisque ça a une trentaine d'années, une époque, j'avais beaucoup tourné à Paris pour un film précisément, mais aussi pour le plaisir, et donc j'ai toutes ces images là
que t'as tourné en Super 8. Tu peux raconter comme cette expérience.
J'ai tourné en Super 8, c'était
quasiment 20 ans où t'as tourné quand même.
J'ai tourné entre 86 exactement et 2004 en Super 8. Et après j'ai arrêté de tourner en Super 8 parce qu'ils ont supprimé la pellicule avec laquelle je tournais. Kodak a supprimé la pellicule. Et donc j'ai arrêté de tourner en Super 8 parce que celle qui remplaçait était beaucoup plus chère, et trois fois plus chère et moins belle.
Dans ces images qui appartiennent donc à ces 18 années de travail avec cette caméra Super 8 et cette pellicule, la Kodachrome 40, il y a beaucoup de malice, il y a beaucoup de là, c'est une autre forme de fantaisie que la fantasia avec l'émir Abdelkader. Mais par exemple, tu passes les images une fois en avant, une fois en arrière, notamment sur la place de la République. Il y a beaucoup de choses circulaires, d'ailleurs. Il y a le carrousel des cartes postales, il y a les ailes du Moulin Rouge. Il y a aussi ce que tu fais avec l'obélisque de Louxor, quoi, d'une manière très, très, comme ça. C'est un truc qui c'est une espèce de turgescence obscène, comme ça, qui vient trouer Paris, comme ça.
Par ailleurs, la place de la République, c'est pas du Super 8, c'est du Super 16. Mais bon, c'est un truc que j'ai utilisé dans trois films. Mais à chaque fois, je les monte pas de la même façon. Là, j'ai rajouté la place de la Concorde, enfin, justement, la turgescence. J'avais trois plans, donc je les ai mis. J'en ai mis d'autres, je les ai inversés. Bon, à chaque fois, c'est monté un peu différemment dans les films. Bon, j'en avais besoin pour montrer les lieux de pouvoir. Parce que bon, il y a aussi des trucs que j'ai tournés récemment, à savoir la Nation, la place de la Nation, et les Invalides que j'ai tournés grâce à un ami que j'ai vu tout à l'heure, que je vois plus. Il a dû se raser, il a dû partir. Et qui a consacré une bonne demi-journée à me balader dans Paris en bagnole. Mais bon, ça c'est le seul truc qui soit vraiment récent, quoi.
Et on n'a pas parlé aussi du géographe.
Ah, le géographe, c'est papa. C'est mon père, hein, le géographe. Le prof.
C'était quand ça?
Ça c'était à Alger, à Sétif, en Algérie. Pendant un séminaire Alors j'arrive plus à savoir, 2006 ou 2007. Et pendant un séminaire qu'il faisait à la fac de Sétif, j'ai raté le merveilleux moment où il dessinait la carte de l'Algérie à main levée parce qu'il était super fort. Et j'ai raté, je ne devais pas avoir de cassette ou je ne devais pas être à la bonne place. Je ne me rappelle plus, mais j'ai raté. Et j'aurais bien aimé la voir parce qu'il ne faisait pas une erreur dans n'importe quelle petite baie, il la dessinait. Pas une erreur dans les proportions, rien, quoi. C'était un très bon cartographe, mon père. Pas un très bon père de famille.
Et, bon, donc les textes, les images, et puis il y a le rapport ou non qu'il y a entre les deux, et c'est là que le film fait quelque chose que je crois, enfin, en tant que comme spectateur, n'avoir jamais vu, jamais entendu, jamais ressenti, C'est des choses qu'on sait, mais il y a des choses qu'on sait, et puis il faut aussi les sentir, et c'est autre chose. C'est que, en fait, il n'y a pas un seul Algérien, il n'y a pas un seul enfant qui soit pas le survivant, en fait, d'un massacre dont les noms, dont les mots continuent de résonner à travers le temps. C'est-à-dire que c'est comme si une gamine, un homme qui va qu'à ses occupations, un artisan, un charpentier, était hanté par ces paroles de mort qui ont été prononcées bien avant sa naissance. C'est des paroles de mort qui continuent d'une certaine manière à exercer encore une force de mort, et les images, elles, sont du côté plutôt de ce qui résiste à cette mort-là. Et ça c'est assez étonnant, parce que il me semble avoir jamais vu au cinéma avant.
C'est pas directement des survivants, c'est des descendants de survivants.
Mais ils continuent de survivre.
Et ça, c'est paroles de mort. Bah oui, mais bon, c'est... Ils n'ont pas le choix. Mais par ailleurs, moi, je les ai montrés comme ça. Et c'est ce que j'avais dans la tête. En fait, j'ai tout de suite su, dès le jour où je m'y suis mis, et je m'y suis mis du jour au lendemain à faire ce film, j'ai tout de suite su globalement comment j'allais le faire. Donc avec ces archives et ces images d'Algériens qui sont les descendants des survivants. Et par ailleurs, ce que tu dis, je ne sais pas si ces gens sont hantés par cette mémoire, parce que c'est pas enseigné en Algérie, les élèves ne sont pas du tout au courant. C'est pas du tout enseigné, ce qui est enseigné c'est la guerre de libération, mais pas du tout la résistance à la conquête des années du 19e siècle par les Français. C'est pas du tout enseigné, et les gens ils ont largement, je pense que en grande partie ils ont largement oublié eux-mêmes ce qui s'est passé dans le pays avant que les Français ne s'installent durablement et colonisationnellement. C'est-à-dire que c'est ça, c'est des Algériens qui me l'ont dit, des élèves en particulier qui m'ont dit, on n'apprend absolument pas ça, quoi. Donc je ne sais pas dans quelle mesure les gens plus âgés, les gens qui ont vécu la guerre par exemple, ou qui étaient enfants pendant la guerre, ont conscience de cette histoire-là. Quant aux jeunes, je pense qu'ils ne la connaissent pas. Bon, moi j'avais pensé que c'était important d'en parler, de faire le truc. Moi j'avais envie d'en parler, enfin d'en parler, j'en parle pas. Je fais un truc, c'est pas de la parole. Il y a de la parole, mais c'est pas la mienne. Enfin, c'est la mienne, c'est un acte, c'est pas une parole. J'avais pensé que c'était important de faire le truc. Parce que, justement, parce que c'est totalement passé sous silence, quoi. Totalement oublié, passé sous silence. Et que c'est quand même. Et que l'histoire, dans la vie, c'est quand même un des trucs les plus importants, quoi. Comprendre l'histoire, comprendre ce qui s'est passé, pourquoi on est dans les situations en général merdiques dans lesquelles on est. C'est parce qu'il y a des raisons à ça qui sont des raisons historiques, quoi.
Oui, mais on peut être hanté par toute une série de spectres sans savoir qu'ils existent et sans identifier leur voix. Hein. Et c'est ça aussi que tu montres. C'est que c'est, encore une fois, ces paroles-là, elles n'ont pas été prononcées une fois pour toutes en 1835. Je veux dire, elles continuent de résonner. Et elles résonnent d'ailleurs de telle sorte que le film aussi a un pouvoir une grande puissance d'éclaircissement de ce qui nous arrive maintenant pour nous ici. C'est un film que je trouve très éclairant sur... l'hystérie qui caractérise tous les néofascistes qui, par exemple, font leur miel de quelque chose qui s'appelle le grand remplacement. Genre, si c'est un film qui nous permet de comprendre, je veux dire, d'où ça vient, oui, il y a eu effectivement un grand remplacement, effectivement. Il faudra toujours répondre à un facho que le grand remplacement, il a eu lieu, mais il a eu lieu à Alger, en fait.
Il a eu lieu en Algérie, oui, le voilà. Remplacement.
Donc c'est ça qui est très intéressant.
En fait,
voilà aussi. Ça aussi, c'est que je me sens pas. Il n'y a pas un film jusqu'à présent qui m'avait donné justement la possibilité de me le dire, ça.
Non, c'est dit textuellement, d'ailleurs, que dans les, je ne sais plus quelle citation, dit textuellement, on va les envoyer aux îles Marquises, on va prendre leur place. Quoi. Donc, c'est dit, puisqu'ils veulent déporter et se remplacer les populations autochtones et indigènes. Quoi.
Tous les nostalgiques, finalement, de l'Algérie coloniale, eux-mêmes sont hantés par ce crime qu'ils ont eux-mêmes, dont ils reconnaissent d'une certaine manière le legs, et dont ils imaginent que par une espèce de vengeance qui traverserait les temps, les descendants des colonisés leur feraient vivre. Enfin, c'est, genre, c'est ce type de délire-là qui anime un certain type de discours politique aujourd'hui. Mais aussi, autre chose par rapport à l'actualité, puisqu'on a eu donc, une séquence, ça a été les élections présidentielles, et l'extrême droite, quand même, avait pignon sur cette élection. Il y a aussi, en 2021, on nous a dit aussi qu'on a eu la chance, nous Françaises et Français, d'avoir été d'être les habitants d'un pays dont une grande figure d'État a été Napoléon. Donc il y a eu son bicentenaire, tout ça. Il y a 2 ans, et il y a un intermède haïtien aussi qui est très intéressant dans le film, l'interlude avec la chanson de Claudette et Tipierre. Ça nous rappelle aussi qu'il y a un lien entre Haïti et l'Algérie.
J'ai fait un lien. Bon, il se trouve que j'avais filmé ces deux dames haïtiennes qui habitaient dans mon impasse, avec qui j'étais copine, et que bon, j'ai énormément écouté Claudette et Tipierre, qui sont des musiciens haïtiens, qui étaient pour Tipierre qui a été assassiné, et que je connaissais bien cette chanson qui commémore une fête et une cérémonie. Qui a été préalable à l'indépendance d'Haïti, donc c'est le 18 mai 1803, cette fête, et l'indépendance d'Haïti, c'est en 1804, alors j'ai pas le mois, je sais pas. Mais bon, donc il y a eu cette cérémonie, et je me suis dit que ça ferait bien une rupture narrative avec un solide contenu historique, puisque... Il y a une fraternité, mettons, entre la résistance parce qu'il y a résistance, les textes d'Abdelkader le disent clairement, entre la résistance à l'envahissement français et la libération et la prise d'indépendance d'Haïti. Que Haïti a payé très cher, au point que c'est un pays complètement foutu maintenant, puisqu'ils ont dû payer les dettes privées, ils ont dû payer à l'État et au privé les dettes privées des propriétaires d'esclaves et propriétaires de terrain, jusqu'à, je crois, maintenant, d'ailleurs, ils continuent de payer, je crois. Parce que ça, la dette était colossale, et voilà quoi. Donc. Moi, j'ai vu tout de suite une fraternité entre ces deux situations. Haïti ayant pris son indépendance carrément 30 ans avant l'invasion de la conquête de le début de la conquête de l'Algérie, quoi. Et donc, c'était un hommage à mes voisines, à Haïti et à Claudette et Tipierre, dont j'aime beaucoup la musique.
Il y a aussi il y a un autre élément qui instruirait le constat du rapport entre Haïti et l'Algérie, c'est aussi parce que la grande armée Napoléon était consommatrice aussi, et il y avait un gros endettement qui avait été largement aussi assumé par le dé d'Alger. Donc une manière aussi de liquider la dette, c'était de détruire les créanciers.
La conquête de l'Algérie est partie d'un prétexte, qui était une raison d'ailleurs, non pas du tout le coup d'éventail que le DEA aurait donné à l'ambassadeur de France, mais de la raison, une vraie raison, une raison économique, qui était le fait que la France et l'armée napoléonienne, Napoléon, c'est Napoléon qui avait engagé cette... Ce truc avait emprunté à l'Algérie d'énormes quantités de blé pour nourrir l'armée de conquête de Napoléon. Et il n'avait jamais remboursé. Et bon, il y avait eu des spéculations pendant, depuis 1800, c'est que les guerres napoléoniennes, ça commence en quelle année?
Ça commence à la fin du XVIIIe siècle, et surtout ça se déploie pendant la première décennie des années 1800, surtout à la campagne de Russie, le blé c'est pour la Russie.
C'est avant même la campagne de Russie, c'est les premières grandes guerres napoléoniennes.
Espagne.
Et donc ils avaient, et cette dette a été l'objet de spéculation de la part de deux juifs livournais qui s'appelaient Bakri et l'autre, j'arrête pas d'oublier son nom. Bref, elle était devenue colossale. Et la France voulait absolument pas payer, quoi. Et donc, pour ne pas payer, elle s'est dit, on a qu'à piquer le pays. Comme ça, on n'aura pas à payer. Et en plus, on va gagner de l'argent. Beaucoup de choses. Et puis des bras pour travailler. Et voilà, quoi.
Donc, du coup, ça nous permet de revenir sur cette question sur laquelle tu insistais tout à l'heure, c'est de l'histoire plutôt que de la mémoire. Donc, tu avais dit que dans l'ensemble des circonstances du film, donc, il y avait le rapport Stora qui était très axé, d'abord qui ne parle pas du tout de la conquête et des premières années de la colonisation. Ce n'est pas du tout le sujet de... Enfin, c'est complètement évacué, et puis qui a une vision plutôt mémorielle, réparatrice, bon, ce genre de choses, qui t'avait absolument offusqué, scandalisé même, et tu avais trouvé ça dégoûtant. Et donc, du coup, il y a ce film. Et donc, la question de l'histoire, c'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a plusieurs manières de faire de l'histoire. Et d'une certaine, le film en porte le témoignage. Il y a l'histoire monumentale. Et d'une certaine manière, les archives dans Paris, c'est ça. Voilà. Si vous voulez du monument, faut savoir ce que ça a coûté, quoi. Les monuments sont des ruines monumentales. Et elles s'exposent dans plein Paris. Elles attirent beaucoup de touristes. Il y a l'histoire antiquaire. Bon, ça, vous connaissez à la télé, tout ça. Les gens qui nous racontent ça comme s'ils étaient des antiquaires, hein, l'antiquaille de l'histoire, voilà, avec laquelle on a un rapport pieux et tout à fait charmant. Et puis il y a l'histoire critique, c'est-à-dire où en fait on n'en a pas fini de ces histoires-là, parce qu'en fait elle continue d'exercer des effets de ce qu'on appelle d'hystérèse. Ça continue les causes. Alors je redis, mais justement parce que l'hystérie, ça vient de là. Mais voilà.
J'ai cherché le sens et puis j'ai oublié. Mais
en fait, l'hystérèse, ça dit d'un processus qu'il continue à exercer des effets quand bien même les causes ont disparu. Donc s'il y a une forme d'hystérisation dans le discours politique sur un certain nombre de sujets, la question c'est qu'il y a effectivement des effets qui continuent à être alimentés par des causes qui, elles, ont disparu historiquement. C'est-à-dire, par exemple, la conquête de l'Algérie. Tout ça, effectivement, c'est dans notre dos. Mais en fait, ça continue à produire des effets et qui nous pourrissent l'existence aujourd'hui. Et on a besoin de cinéma pour éclaircir l'obscur qui caractérise l'époque. Et pour éclairer ce qui obscurcit le présent, il faut aller effectivement regarder un peu dans le passé. Et la lumière, elle fait mal aux yeux. Et elle fait mal aux oreilles aussi. C'est des ossuaires, quand même. C'est des paroles de mort qui sont dites et qui sont assumées par de grands noms qu'on nous enseigne, dont on nous enseigne l'œuvre, mais en nous épargnant l'analyse de ces textes-là. Et effectivement, c'est toujours un peu incidemment dans nos trajectoires respectives qu'on se dit, voilà, bon, un tel, machin, truc, a soutenu ce délire qui fait que les gens, oui, continuent un petit peu à délirer parce qu'ils sont un peu malades. Et ça dure plusieurs siècles. Donc c'est pas mal de se guérir avec le cinéma. C'est de l'archéologie en plus qui permet de prendre soin aussi de nous. Mais, et la construction du film, voilà, il y a un milieu, l'interlude, et à rebours, et on revient. Donc en fait, il s'agit du retour. Donc l'Algérie, tu y reviens, c'est ça, c'est l'élément. T'arrêtes pas d'y revenir en fait. Ça vient pas.
C'est-à-dire que la deuxième partie sur Alger, c'est aussi un retour en arrière dans le temps par rapport au premier, la première partie où je couvre 18 ans. Et après, c'est sur le début. C'est-à-dire en fait, la première partie, c'est la destruction d'une population. Et la seconde partie serait plutôt la destruction d'une civilisation, quoi. D'une ville et à travers la destruction de la ville, la destruction d'une civilisation. Et donc, je fais une sorte de zoom. J'aime pas les zooms aussi de focal, mais là, c'est une sorte de zoom mental sur la ville d'Alger et sur le début de sa démolition qui a été particulièrement brutale Bon, c'est bien raconté, y compris par des fonctionnaires coloniaux, des fonctionnaires civils, parce que c'est essentiellement dans cette deuxième partie, il y a beaucoup de civils qui parlent. Et donc, ils racontent bien comment l'armée a, s'est totalement laissée aller au saccage, à la, sans aucune espèce de respect pour quoi que ce soit, ni pour le bâti, ni pour le... pour les, comme ils disent, les ornements de sculpture, etc., etc., ni évidemment pas non plus pour le végétal, mais c'est surtout, oui, c'est cette deuxième partie, c'est le saccage d'une ville, comment ils ont saccagé, par exemple, un réseau d'égouts extrêmement bien fait, comment ils ont saccagé le système d'enseignement, comment ils ont saccagé
les tombes
systématiquement parce que c'était en marbre. Et donc on récupère le marbre, évidemment. Et
D'ailleurs, ça m'a fait penser à Sous le ciel lumineux de son pays natal, où on évoque aussi des profanations de, des profanations de tombes là, par rapport à la guerre, par rapport à la guerre civile libanaise.
Ah ben, quand je vais dans des pays que je connais pas, je vais toujours à la gare, dans un supermarché pour voir ce que les gens mangent, au cimetière. Et je vais systématiquement au cimetière pour voir comment c'est, quoi. Enfin, pas tous. J'en visite un ou deux. Et bon, quand j'étais à Beyrouth, évidemment, j'en ai vu plein parce que c'était, la guerre était pas loin et il y avait encore des gens tout frais dans les tombes.
Je parle du retour, du revenir, parce que donc le film fonctionne sur cette idée d'un redoublement du retour. Première partie, seconde partie, décivilisation du côté des textes et civilité des gens que tu filmes, ça aussi c'est très très fort. Mais tu reviens en Algérie, en fait tu ne cesses pas de revenir en Algérie depuis 60 et quelques années maintenant. Et en tout cas les trois derniers films en témoignent. Tu as parlé tout à l'heure donc de ce tournage que tu as mené entre 2009 et 2010, c'est à l'occasion d'un film qui s'appelle I'm Too Sexy for My Body. Donc, qui était consacré à la seconde édition du PANAF, du Festival Panafricain à Alger, qui est un film d'ailleurs très étonnant parce que c'est un film dans lequel il n'y a pas de, ni de voix off et quasiment pas de voix in, c'est surtout des corps qui dansent. C'est un film de corps qui dansent, une forme d'ivresse comme ça, qui exerce aussi là des choses très très grandes. Donc ça c'était vraiment lié à un contexte précis, 2009, l'édition, donc la seconde édition du Festival Panafricain à Alger, mais forcément on pense à la première édition mythique pour toute une série de raisons politiques en 1969. Et puis en 2015, tu fais Bienvenue à Madagascar, où là aussi, c'est 50 années, en gros, de la fin de la guerre d'indépendance, ou encore même du début de la guerre d'indépendance jusqu'à l'époque contemporaine, en incluant la guerre civile. Et là aussi, tu traverses comme ça plusieurs décennies. Ces trois films-là, donc, c'est comme une espèce de lente remontée de deux siècles d'histoire de l'Algérie, qui est un pays qui t'est cher parce que tu y as vécu enfant, quand tu as une petite dizaine d'années, entre 1963 et 1966.
Ouais.
Donc tu reviens. L'Algérie, on n'y va pas, en fait. On y revient. Ou toi, tu y reviens
là,
constamment.
La dernière fois que j'y suis allé, ça m'a tellement déprimé que je ne sais pas si j'y retournerai. J'y retournerai sûrement parce que j'ai des amis, mais c'était triste.
C'était quand ?
C'était en décembre.
Ah ben oui.
Et ça m'a déprimé. C'était triste, c'est bien pire que sous Bouteflika, c'est en chute libre. Enfin, c'est une parenthèse. Il me reste encore pas mal d'images d'Alger, donc mais je crois pas que je ferai. En tout cas, la piste que je donne à la fin avec les citations, il y a deux phrases de Tocqueville à la fin qui sont juste par rapport au film, parce que je parle pas de la colonisation vraiment. Parce que la colonisation avait juste été ébauchée durant la période dont je traite. C'était la colonisation à la Bugeaud avec le soldat laboureur, et également de très grandes propriétés terriennes qui s'étaient déjà installées, parce que évidemment il y a les gros capitalistes agricoles qui avaient senti l'opportunité et qui s'était fait donner par l'armée d'énormes hectares, hein, des quantités d'hectares, mais elle n'avait pas vraiment commencé la colonie de peuplement. Et donc il y a deux phrases de Tocqueville à la fin du film, qui dit maintenant que j'ai expliqué ce que c'est que la comment faire la domination, je vais vous expliquer comment faire la colonisation. Et donc c'était
suivre,
je faisais comme si c'était une piste pour moi, mais je ferai pas de film, c'était une fausse piste, je ferai pas de film sur la colonisation, c'est beaucoup trop complexe, long, et là pour le coup j'ai pas les matériaux, j'en ai pas l'envie, et c'est très compliqué par ailleurs, parce qu'elle a été multiple, très longue, avec des moments contradictoires, et bien que tout aille évidemment dans le même sens, c'est-à-dire dans le sens du code de l'indigénat, quoi.
Comme ça en passant, mais peut-être qu'on en avait déjà discuté, mais est-ce que vous.
Peut-être qu'ils en ont marre, hein.
Ouais, aussi, vous en avez marre, vous le dites, hein. On passe à autre chose, hein. Et puis surtout, prenez le bâton et cassez-le. Est-ce que tu as vu, est-ce que vous avez vu le dernier film muet de Jean Renoir qui s'appelle Le Bled ? Le Bled.
Ouais, moi je l'ai vu. Ouais.
Tu t'en souviens ?
Bah ouais, c'est bien, c'est un film d'amour et d'aventure.
Parce qu'il y a
des tas de meurtres.
Oui.
Et parce qu'il y a un salopard, alors il y a une poursuite. Et puis ils arrivent à le tuer, le salopard, alors que le salopard, il est presque en train de tuer la fille dont il fait semblant d'être amoureux. Bref, il meurt.
Ouais.
À la fin. C'est moral.
Alors, pourquoi on évoque ce film ? Parce qu'en fait, c'est un film qui est une commande qu'on a passée à Jean Renoir pour célébrer le centenaire de la colonisation d'Algérie. Donc il a tourné en Algérie. Donc c'est un film que Jean Renoir a tourné en Algérie. C'est son dernier film muet. Et c'est un film assez étonnant, parce qu'on voit déjà... Renoir étant égal à lui-même, il fait pas un film de commande, en fait, il ne s'intéresse pas véritablement à ça. Il fait toute une série de vues complètement séparées des obligations, du drame, de tout ça, complètement dédiées aux gens qui habitent ici et dont on devine qu'ils vivent là depuis beaucoup plus longtemps que les sujets de l'histoire qu'il est censé raconter. Donc ça, c'est des plans qui sont très précieux. Puis il y a toute une évocation, justement, de l'armée coloniale française qui arrive, et c'est traité comme sur le mode de la fille aux allumettes du comte d'Andersen, c'est-à-dire ces petits soldats de plomb. C'est vraiment filmé comme ça, quoi. Donc c'est-à-dire que ça le fait quand même un petit peu rigoler. C'est un film vraiment très très étonnant. Moi, j'invite toujours les gens à le découvrir, parce que Jean Renoir, d'abord, c'est le plus grand cinéaste, et puis ce film est malheureusement un peu méconnu. Et je dis ça parce que tu cites Renoir dans l'escale de Guinée. Dans mon souvenir, tu parles du fleuve, tu évoques la rouquine du fleuve.
La petite fille du fleuve. Ouais. Ouais. Mais bon, ça, c'est vraiment un truc. Faut savoir de quel fleuve il s'agit. C'est vraiment un truc que j'ai mis pour mon plaisir. J'ai jamais pensé qu'on penserait à Renoir. Mais évidemment, c'est la petite fille du fleuve de Renoir, quoi. Non, c'est à propos des lieux coloniaux, c'est-à-dire que le fleuve, c'est dans l'Inde colonisée par les Anglais, et moi ça se passe en Guinée, et je suis en train de parler de Lorenzo Marquez, et donc je parle de voilà, non, donc effectivement c'est je suis dans des histoires coloniales, mais bon, par ailleurs ça parle tellement l'escale de Guinée que on saisit ça ou on ne le saisit pas. Enfin, Saad, il est fou. Mais tu crois...
Il y a quelqu'un qui veut poser une question.
Ah bah oui, bah, voilà.
Alors, bonjour. Donc, je vais commencer par dire que j'ai beaucoup apprécié le film. Ah, vous m'entendez ?
Je peux parler dans le trou.
Je ne sais pas si ça marche.
Vous m'entendez ? Ah oui, ouais, c'est bon.
Ouais. Voilà.
Ah, bon, bonjour. Alors, donc, je voulais commencer pour vous dire que j'ai beaucoup apprécié le film, merci. Et je voulais revenir sur un point que vous aviez relevé tout à l'heure. Vous aviez dit que, en fait, qu'à l'école algérienne, on nous parlait plutôt de la guerre d'Algérie plus que de la conquête. Mais en fait, moi, je suis algérien et j'ai fait l'école algérienne. Et donc, c'était juste pour vous dire qu'en fait, si on nous parle de la conquête et on nous parle aussi de à la capitulation donc du dé, l'arrivée de l'armée, la cité Ferruche, la politique de la terre brûlée, etc. Sauf que bon, votre film reste quand même intéressant parce que on nous parle pas forcément. Non, je veux dire dans les détails exactement de ce qui s'est passé, du pillage, etc. Donc enfin, nous on parle dans les grandes lignes. Sauf que on ne va pas dans autant de détails. Et aussi, on ne parle pas non plus de la destruction d'AG, donc pour moi, c'était très intéressant d'apprendre davantage sur cette destruction et sur la reconstruction, donc merci. Voilà, donc c'était juste pour revenir sur ce point-là, donc pour dire que oui, en fait, on nous enseigne quand même la conquête.
Ouais, non, c'est parce que, en fait, c'est parce que à l'issue de... En fait, moi, je savais pas ce qu'on apprenait à l'école en Algérie. Même si j'ai vécu longtemps, je sais que l'école, c'est un peu la catastrophe. Mais à l'issue de plusieurs projections de ce film, c'est des jeunes gens, en particulier des jeunes filles, qui m'ont dit qu'on parlait jamais de cette histoire de conquête, qu'on parlait que de la guerre de libération, quoi, à l'école en Algérie. Mais après, j'en sais rien, puisque moi, quand j'étais à l'école en Algérie, j'étais au lycée français, donc c'était les programmes français, où on parlait évidemment ni de la guerre d'Algérie, ni de la conquête, etc., etc., donc...
C'est vrai que l'accent est porté sur la période entre 1950.
Pardon, j'ai pas compris.
Non, mais c'est vrai que l'accent des programmes d'histoire est porté sur la guerre et pas tellement sur la conquête, mais on en parle quand même.
Ah, d'accord, mais ça je ne savais pas. On m'avait dit le contraire, donc voilà.
D'accord, merci. Oui, bah, si, probablement.
Non, mais c'était des jeunes filles, essentiellement des filles qui m'avaient parlé de ça.
D'accord. Bah, peut-être que
mais enfin, tant mieux si on en parle. Si on en parle à l'école en Algérie, parce que en France, je crois que on dit la France a conquis l'Algérie, puis le Sénégal, puis il y avait des comptoirs, puis ceci, puis cela, puis cela, puis cela, et il y a eu l'Empire français, mais on dit jamais comment ça s'est passé, quoi. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai appris ça quand j'étais à l'école, c'est-à-dire que la France était un grand empire, mais on m'a jamais raconté comment ça s'était passé, quoi.
Merci.
Merci à vous.
Attendez, il y avait juste madame.
On va commencer par là.
Merci. Je voulais faire deux commentaires. Un, vision d'ici et un, vision d'Alger. En France, par rapport à ce que vous évoquiez, là, par rapport à... J'ai noté le nom, Hystérès, là, enfin, comme, bref, tous les fachos qui s'agitent, là, qui veulent nous renvoyer, nous, les Algériens, chez nous, parce que... On remplace là, les Français. Je trouve que le documentaire, ce qui montre, alors peut-être que j'ai déjà ce prisme de lecture, mais j'espère qu'en tout cas ce sera bien vu, c'est l'État. C'est-à-dire que par rapport à tous les délires de merde autour de la repentance, par exemple, qui est quelque chose qui m'agace profondément, personnellement, il n'y a pas besoin d'une repentance de chaque citoyen français qui se sentirait lui-même ayant commis cela. Il y a des gens qui ont participé à ça, qui ont été désengagés, qui ont été des gens qui ont été envoyés en Algérie, qui effectivement, il y a des gens qui ont commis des crimes, etc. Mais je trouve qu'en France, il y a une confusion qui empêche aussi de parler de cette question, qui est une confusion vraiment dommageable et je pense entretenue, parce qu'elle empêche de désigner en fait le réel responsable. C'est-à-dire, c'est une entreprise d'État. Bon, il y a les capitalistes aussi, comme vous l'avez mentionné, etc. Mais on voit bien que c'est l'armée. Enfin, voilà. Donc, ce serait important aussi que chaque acteur reprenne sa place dans cette histoire et que, du coup, on puisse en parler. Enfin, voilà. Premier commentaire. Second commentaire, vision d'Algérie. J'espère que ce film va être diffusé, qui va être vu par des jeunes Algériens. Parce qu'en fait, ce qu'on y voit, on y voit le début de la destruction de l'Algérie, et cette destruction-là n'est pas terminée. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai trouvé frappant, c'est quand on voit, par exemple, l'artisan, quand on voit ces gens qui travaillent de leurs mains, là, qui font des choses là, à Alger, quand on voit l'état de la Casbah, etc., la destruction qui a commencé en 1830, elle s'est prolongée ensuite par la suite, elle n'est pas terminée, et on n'est pas sorti de ce merdier-là. Et ça, je trouve ça vraiment très fort, et très significatif parce que dans le film, le fait de resituer l'origine de la destruction fait qu'on peut être un peu moins porteur de la responsabilité d'être nous-mêmes à l'origine de notre propre destruction parce que nous serions incompétents. Et cette destruction, et j'ai vu votre film aussi hier, et je trouve que le film d'hier, qui est pourtant plus ancien, est une sorte de continuité parce qu'il montre comment l'État algérien a pris le relais de cette destruction et comment les Algériens payent un prix extrêmement fort. Et donc je trouve ça absolument fabuleux, en fait. Et j'espère que ce film va être vu par un maximum de gens. Voilà. Merci.
Ben, moi, je suis d'accord avec les deux réflexions que vous faites. La repentance, ça me dégoûte. Et en plus, ça n'a pas lieu d'être. Les citoyens français, c'est le capital et l'État, effectivement. Quant à la suite, ça s'appelle le néocolonialisme. Donc, ça ne s'est jamais arrêté, le colonialisme, nulle part. Et c'est bien pour ça qu'il y a des dirigeants corrompus, parce qu'ils ont été mis en place avec le... La main invisible, comme on dit, pour le marché de la France.
Mais je peux peut-être évidente, tu l'as montré le film à Alger.
Oui, je l'ai montré à Alger, mais il n'y avait pas de jeunes. Il n'y avait que mes copines et mes copains qui étaient tous de ma génération. Donc,
on escompte bien le montrer à nouveau prochainement.
Et
du côté de Béjaïa en Kabylie.
Peut-être à Béjaïa, il y a des jeunes, mais là, c'était un festival à Alger. Il n'y avait que des vieilles peaux comme moi. Et donc, il n'y avait pas une seule personne que je ne connaissais pas. Il n'y avait pas un seul jeune. Si, il y en avait quelques quarantenaires. Hein? Non, c'était le foutoir le plus complet.
Madame.
Oui, enfin, c'est pour revenir un peu, parce que je trouve ce qu'on vient de dire est tellement intéressant que c'est un peu anecdotique, mais je suis aussi très, très intéressée par la ville et les vues de la vieille ville, et je me demandais à quel... ça correspond à une connaissance de la ville, ou est-ce que tu passes beaucoup de temps pour savoir où tu veux t'installer pour filmer? Ce sont des lieux que tu connais, ou est-ce que parfois tu découvres un lieu que tu connais pas et tu dis c'est curieux, je découvre une rue. Enfin, est-ce que tu restes longtemps avant de filmer? Enfin, il y a une complicité avec les gens, et surtout les enfants. Mais j'étais un peu. Je me posais la question, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que ce sont des gens, les lieux que tu connais bien? Est-ce que ce sont les gens que tu connais, que tu t'avais déjà rencontrés? Et surtout, c'est très très beau. Et merci.
La ville d'Alger, je la connais bien. J'ai vécu quand même entre 1999 et 2010. Et je m'y suis beaucoup baladé avant d'avoir l'autorisation de tournage. Par ailleurs, les gens que je filme, je les connais. Il y en a que je connais, par exemple le menuisier, celui qui fait les petits bancs, c'était un copain. Mais celui qui tape sur la porte, là, je ne le connaissais pas. Je l'ai rencontré, j'ai demandé si je pouvais le filmer en train de travailler. Il m'a dit oui. En fait, les gens aiment bien être filmés quand ils travaillent. En tout cas, à Alger, j'ai remarqué partout ailleurs, quand ils travaillent, comme ils ont une position de dignité, ils acceptent d'être filmés beaucoup plus facilement. Par exemple, les gens, comme on dit à Alger, ceux qui tiennent le mur, c'est-à-dire ceux qui foutent rien, qui sont chômeurs et qui sont appuyés contre le mur et qui tiennent le mur avec leurs pieds comme ça, appuyés contre le mur, plus le dos, on peut pas les filmer parce que ça les humilie, quoi. Et je tiens absolument pas à humilier les gens, quoi. Donc, je tiens exactement au contraire. Et donc, les gens, parfois je les connais, parfois, la plupart du temps je les connais pas. Mais je reste un certain temps sur place, je me montre, je cherche des cadres, évidemment. Quand j'en ai trouvé un, je tourne. Quand j'ai trouvé un cadre qui me va, je tourne, j'appuie sur le bouton, quoi. Mais la ville, quand j'ai filmé Alger, j'avais un chauffeur parce que j'habitais loin, j'habitais à 25 km. Et puis que bon, les transports dans Alger, c'est très compliqué, il y en a peu et c'est compliqué. C'est très long, etc. Donc j'avais un chauffeur qui est devenu un copain, qui était aussi qui s'occupait de plein de trucs, qui était devenu un assistant. J'ai sillonné la ville avec lui, je disais on va à tel endroit, et puis j'ai épluché le quartier complètement. Et c'était des quartiers que je connaissais bien, quoi. Il y a des quartiers où je suis absolument pas allé. Je suis pas allé dans les banlieues, je suis pas allé dans les quartiers islamistes. J'avais pas envie de me faire péter la gueule, tout simplement. Et puis en plus, les banlieues, elles sont particulières. Si j'ai tourné pour le film précédent, j'avais tourné dans des banlieues avec des constructions modernes qui étaient particulièrement moches. Et puis je les ai montées d'ailleurs. Mais dans ce film-là, non. Puisque. En fait, c'est un seul tournage. J'ai fait qu'un seul tournage pour trois films. À Alger, c'était un seul tournage qui a duré un an et demi, quoi.
Tout à l'heure, on a parlé donc des trois derniers films dans l'ordre chronologique, donc I'm Too Sexy for My Body, tournage en 2009, le film a été montré en 2012, Bienvenue à Madagascar, donc 2015, et ce film-là, effectivement, c'est une espèce de grand triptyque algérien, mais l'Algérie, on y revient, on y retourne, parce que donc François Prenant y a vécu quand elle avait une dizaine d'années, entre 1963 et 1966, parce que ses parents, donc on a vu son père, ont été engagés aussi pour la cause algérienne et se sont aussi établis quelques années en Algérie pour construire ou essayer de construire l'Algérie nouvelle à cette époque-là. Et donc ça a été un moment, tu dis, ça a été ton paradis. C'est presque tous tes films, c'est d'une certaine manière retrouver un peu ce paradis perdu de ces quelques années que tu as passées merveilleuses à Alger.
Les années d'après l'indépendance, c'était un pur délice à Alger et en Algérie d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup circulé, parce que mon père il était géographe et il m'emmenait avec lui sur ses terrains de boulot. Et c'était un pur délice, tellement c'était joyeux, tellement les gens étaient heureux, tellement ils avaient d'espoir. Évidemment, tout ça a été douché violemment et rapidement. Mais les gens étaient super heureux, quoi. La collectivisation, etc., bon, les comités de gestion, tout ça, bon, ils étaient super heureux. Et après, bon, il y a, en 65, il y a eu le coup d'état de Boumediene, et puis le pays a été mis au pas petit à petit, même si tous les révolutionnaires du monde entier sont venus à Alger jusque dans les débuts des années 70, mais le pays était déjà mis au pas, et la collectivisation, c'était largement oublié, et c'était la bureaucratisation qui était installé. Mais quand j'étais gamine et que j'habitais là-bas, c'était vraiment le bonheur, quoi. Et c'est pour ça que j'étais tellement contente d'y retourner en 99, ce qui correspondait plus ou moins avec l'affaiblissement aussi du terrorisme islamiste. Pas de la fin, mais c'était sur la fin. Et tu es quand même... Il y avait une bombe par jour à Alger, mais il y avait quand même beaucoup moins de morts que... quelques années avant, quoi. Bon, mais moi je trouve qu'on a assez causé.
Ah, juste, alors on va quand même.
Sauf
parce
si
que
vous avez quelque chose à dire, vous, parce que.
Attends.
En plus, j'ai envie de faire pipi.
Oui, moi aussi, mais moi aussi, et pendant le film, je ne suis pas sorti, je te signale. Je ne suis pas sorti. Mais juste quand même, d'abord, on vous invite à voir évidemment tous les autres films de François Prenant. C'est vrai que cette question du prisme algérien, ça peut être intéressant aussi pour voir aussi les autres films, y compris pour apprécier comment, d'une certaine manière, tu expérimentes ta propre étrangeté en allant à l'étranger. Ouais, bah, je parle à tout le monde. Hein.
Non, quand tu dis tu.
Oui, toi. Ah. Et non, mais par exemple, quand tu vas en Guinée-Conakry pour l'escale de Guinée, la Guinée-Conakry, c'est un pays qui a une histoire tout à fait particulière. C'est le premier film à accéder à son indépendance. C'est Sékou Touré. On préfère être libre et pauvre que riche, mais en restant sous la férule de l'État français. Bon, c'est un pays qui a été saccagé par les Français quand ils sont partis de Guinée-Conakry. Ils ont rien laissé. Ils ont brûlé des médicaments. Ils ont cassé des lampes.
L'Algérie aussi,
ils ont détruit.
Ça a été saccagé. Moi, j'allais nager dans un endroit qui était sous ce que les Français appelaient des cabanons, qui étaient des très belles villas. J'allais nager là, il y avait un piano à queue au fond de la mer, parce que les pieds noirs, quand ils étaient partis, ils avaient balancé leur piano à queue dans la flotte, quoi, pour que ça n'arrête pas à des Arabes totalement pas mélomanes. Et donc ils avaient arraché les tuyaux, il y avait je sais pas combien de dizaines de milliers de tracteurs, et à l'indépendance il n'en restait plus que 200 ou quelque chose comme ça. Ils ont bousillé leurs tracteurs, ils ont bousillé tout. Ils ont arraché les tuyaux dans les appartements, ils ont démoli, cassé les fenêtres, ils ont tout saccagé, quoi. Ils ont fait un vrai ravage en partant pour qu'il reste rien aux Arabes. Et par ailleurs, tous les cadres sont partis, donc comme les gens, ils n'avaient pas le droit d'aller à l'école, évidemment, il n'y avait pas de cadres. Donc il y en a d'autres qui sont venus, dont par exemple mes parents qui sont venus, qui étaient des profs, quoi. Mais il y en avait plein d'autres, il y avait plein de gens des pays de l'Est, des médecins, des Tchèques, Cubains, des pays de l'Est ou des pays non alignés. Il y en a plein qui sont venus pour jouer les cadres, des ingénieurs, des profs, beaucoup de médecins, un peu de tout, quoi. Enfin, tout ce qui était cadre, quoi.
Donc, quand vous verrez l'escale de Guinée, très bientôt, vous penserez un tout petit peu à l'Algérie. Quand vous verrez sous le ciel lumineux de son pays natal, où là il est question de Beyrouth et de la guerre civile du Liban, le film a été tourné en 1995, a été montré en 2001. Il y a aussi quelque chose de la fraternité aussi des peuples qui souffrent de la guerre civile, parce que la guerre d'Algérie, l'autre guerre d'Algérie, ou la troisième, a eu lieu dans les années 90. Quand vous verrez Reviens et prends-moi, qui a été tourné après le tournage libanais à Alep et à Damas, là aussi ça résonne, et ça résonne y compris du point de vue du futur, puisque la guerre aussi est arrivée à cet endroit-là. Et à chaque fois, ce qu'on voit, c'est des ruines, mais des enfants. Enfin, c'est ça le truc, c'est ça la polarité dans ton cinéma. Il y a des ruines et des enfants, et puis à vous de construire votre chemin. Voilà.
Et du sol, de l'ombre et du soleil, et même même le petit corps, en fait, je voulais tourner à Alger, et il y a des références à l'Algérie aussi.
Et je me demande si le plan de la tempête de sable de Tombouctou, là, il fait pas écho avec un plan semblable dans Paris.
Il est monté dans le petit corps, ouais. Mais c'est pas le même, mais c'est la même séquence, ouais. C'est la même tempête de sable.
Enfin, dépaysez-vous et allez au cinéma, voilà.
Thank you.